franceinter.fr.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur les dessous de la vente d'Alstom Energy en 2014 à l'entreprise américaine General Electric. En septembre dernier, l'information tombe, provoquant surprise et sidération. La direction d'Alstom annonce son intention d'arrêter la production de trains sur son site de Belfort. En jeu, le transfert d'environ 400 salariés et la fermeture du site historique de l'entreprise. Dans la précipitation, le président François Hollande et son gouvernement trouvent une solution pour sauver le site et repousser à un temps la fatalité. Mais comment en est-on arrivé là, alors même que 2 ans plus tôt, on nous annonçait la conclusion d'une vente qui devait relancer Alstom? Au printemps 2014, avec la même surprise, on apprend la cession de la branche énergie d'Alstom au géant américain General Electric. Personne n'était au courant de ces discussions autour de la cession de l'un des fleurons de l'industrie française. S'engage alors, pendant 2 mois, une incroyable bataille économique et politique où s'affrontent dans la presse et en coulisses grands patrons et responsables politiques pour finalement aboutir à une vente, certes, mais sur laquelle l'État, nous disait-on, avait réussi à imposer sa voix. Alors, quels sont les dessous de ce dossier? Autrement dit, en quoi certains éléments laissent-ils à penser qu'il pourrait s'agir d'un scandale d'État? Cette affaire peut apparaître technique, aride, mais c'est avant tout une histoire, un scénario et bien sûr des enjeux fondamentaux. Et puis, nous avons un allié de poids dans Affaires Sensibles, le temps. 1 heure pour comprendre, 1 heure pour rendre tout cela palpable et compréhensible. Notre invité aujourd'hui, le journaliste Jean-Michel Quatrepoint, qui a enquêté sur cette histoire et qui en a fait le récit dans son livre intitulé Alstom, scandale d'État aux éditions Fayard, paru en 2015. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attaché de production Caroline Debray, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Philippe Duclos.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Dimanche 9 février 2014. Au 112 rue du Faubourg Saint-Honoré, dans le 8e arrondissement de Paris, à quelques pas de l'Élysée, se trouve l'hôtel Bristol. C'est là, dans l'un des salons discrets de ce prestigieux établissement apprécié des grands patrons et des hommes d'affaires, que tout commence. Ils sont 5 autour de la table, 2 Français et 3 Américains. On l'oublie souvent, à l'heure de la reine finance et des échanges à la nanoseconde, l'économie est encore une histoire de dîner et de discussions en chair et en os dans l'intimité du pouvoir. Côté français, on trouve d'abord Patrick Cron, 61 ans, un parcours exemplaire, polytechnicien, école des mines, ingénieur d'État et, depuis 2003, PDG d'Alstom. Il est accompagné de Grégoire Pou-Guillaume, directeur d'Alstom Grid, la branche réseau électrique du groupe. Au fil de son parcours entre la finance et l'industrie, ce cadre franco-américain a noué des relations avec certains hauts placés du géant américain General Electric et c'est lui qui œuvre pour qu'ait lieu la réunion du jour. En face d'eux se tient un triumvirat américain. Il y a là Jeff Immelt. À 58 ans, il est à la tête d'un empire de plus de 250 milliards de dollars, General Electric, l'un des plus importants conglomérats du monde, présent dans le domaine de l'énergie, du transport, de la santé et des médias, avec pour cœur d'activité la production, le transport et la distribution d'électricité. À ses côtés, Steve Bowles, le patron de la branche énergie de General Electric, et John Flannery, responsable des fusions-acquisitions. Oui, car l'enjeu du dîner est bien là, fusion-acquisition. Depuis plusieurs mois, Patrick Cron a pris sa décision. Il veut vendre la branche énergie d'Alstom. C'est un fait, l'entreprise qui repose sur 2 piliers, les transports, avec la fabrication des trains, métros et tramways, et l'énergie, où elle est l'un des leaders mondiaux dans l'équipement, ainsi que la maintenance des centrales nucléaires, bien ce mécano, ce grand mécano, est sur la mauvaise pente. 2 piliers confrontés à des difficultés, crise financière, Fukushima, saturation du marché européen, concurrence asiatique, 2 piliers déséquilibrés, le secteur de l'énergie représente pratiquement 2/3 de son chiffre d'affaires. Alors pour Patrick Cron, c'est clair, en ce début d'année 2014, il faut agir. Son plan est simple, vendre Alstom Energy pour récupérer d'importantes liquidités et renforcer ainsi le secteur du transport. un secteur plus petit, mais qui deviendrait plus riche, donc plus fort et en capacité d'investir, d'innover, de renforcer ses positions. C'est la fameuse stratégie de la taille critique. De leur côté, Jeff Immelt et General Electric prêtent une oreille évidemment attentive au désir de Patrick Kron. Voilà une occasion en or, dans un même mouvement, de s'ouvrir les portes du marché européen et de détenir plus de la moitié du marché mondial des turbines à gaz et de leur maintenance. Il s'agirait de la plus grande acquisition de l'histoire de General Electric. Ce dimanche 9 février 2014, dans le plus grand secret, s'écrivent les premières lignes d'un deal aux conséquences politiques, économiques et symboliques sans commune mesure. Et bien sûr, la sensibilité du dossier impose une grande discrétion. Sauf que le 23 avril 2014, 2 mois et demi après cette première réunion, une information inattendue s'invite au cœur de l'actualité.
Alstom, fleuron industriel français, va-t-il être racheté par l'américain General Electric? C'est en tout cas l'agence Bloomberg qui l'annonce. La somme de 13 milliards d'euros aurait été proposée. Cela pourrait avoir des implications politiques dans la mesure où Alstom est présent dans le nucléaire, mais aussi dans la construction du TGV, autre fleuron national. Aujourd'hui, l'action Alstom s'est envolée à Paris. Emmanuel Valls a affirmé suivre le dossier avec attention. Cela illustre en tout cas, disent les spécialistes, l'attractivité des entreprises françaises dans l'économie mondiale.
Que s'est-il donc passé entre cette première réunion du 9 février 2014 et cette fuite le 23 avril ? Eh bien, tout simplement la mise en place de la vente. Oui, car un mois plus tôt, le 23 mars, Patrick Kron était à New York pour une deuxième réunion au cours de laquelle il a donné accès à l'équipe de General Electric aux différentes informations d'entreprise. Et puis, des banques et des grands cabinets de juristes sont entrés dans la boucle. Le plan de Patrick Kron est simple. Il a trouvé un acquéreur qui l'a convaincu d'acheter la totalité de la branche énergie et qui propose un prix acceptable autour de 13 milliards de dollars. Il veut donc ficeler l'opération pour être sûr que son conseil d'administration le vote. Il préviendra au dernier moment les responsables politiques pour les mettre devant le fait accompli, tout simplement. Il faut donc éviter à tout prix que l'information soit rendue publique. Alors, Patrick Kron et ses équipes avancent en coulisses. Un mois plus tard, le 23 avril, le patron français est à Chicago pour une dernière réunion avec Jeff Immelt. Ce dernier sort tout juste du conseil d'administration de General Electric, au cours duquel il a obtenu accord pour le rachat d'Alstom Energy. Les termes de la vente sont définis, les Américains s'engagent à ne pas retirer leur offre, les Français auront un mois pour se décider, ils pourront étudier d'autres offres comparables sans pour autant en solliciter d'autres. Mais alors, qu'il est dans l'avion pour retourner à Paris, l'agence américaine Bloomberg, qui a eu vent de l'affaire, publie son scoop. Évidemment, l'information ne passe pas inaperçue et les premières inquiétudes apparaissent.
Non, Alstom ne sera pas racheté par les Américains de General Electric. C'est ce qu'a dit hier le patron du fleuron français à ses syndicats. Seule la branche énergie semble intéresser General Electric. Du coup, dans l'une des usines de turbines à Belfort, eh bien, on accueille la nouvelle avec appréhension. Jean Armando est de la CGT Alstom Belfort.
Personne ne s'attendait à une telle position. À Belfort, il y a deux fabrications de turbines, des turbines General Electric et des turbines Alstom. Donc il va y avoir doublon de production. Pour moi, il y aura facilement entre 1000 et 1500 salariés de trop sur cette activité. On connaît tous les difficultés aujourd'hui financières d'Alstom. On n'a pas les chiffres officiels puisqu'ils seront dévoilés début mai. Tout montre qu'on est quand même sur un exercice très difficile au niveau financier, quoi.
Jeudi 24 avril 2014, lendemain de l'annonce, changement de décor et d'ambiance. Cette fois, nous sommes au 5e étage du ministère de l'Économie et des Finances, à Bercy, où se trouve le bureau d'Arnaud Montebourg, qui a donné rendez-vous à Patrick Kron pour qu'il s'explique sur ce qu'il vient d'apprendre dans la presse et qu'il ignorait, oui, totalement. Après le remaniement du 31 mars, dans ce premier gouvernement Valls, Arnaud Montebourg est désormais à la tête d'un vaste ministère qui regroupe l'économie et le redressement productif. Jusqu'à maintenant, il a essuyé quelques échecs, au premier rang desquels, en début de mandat, celui de la fermeture de l'usine sidérurgique de Florange. En cette fin de mois d'avril, il est encore sur le front, en train de finaliser le dossier PSA. Là, face à Patrick Kron, il n'en revient pas. Comment le patron de l'une des plus importantes entreprises françaises peut-il organiser la vente d'une partie de ses activités, et non des moindres, puisqu'il s'agit du secteur hautement stratégique de l'énergie et du nucléaire, sans en parler avec le gouvernement ? Patrick Kron se défend. Jusqu'à maintenant, il n'y avait rien d'officiel, donc rien à dire. Puis, il est à la tête d'une entreprise privée, il n'a donc pas l'obligation d'en référer au ministre. Et puis quoi ? Arnaud Montebourg était au courant des difficultés de l'entreprise, alors ? Effectivement, Arnaud Montebourg savait. Quelques mois auparavant, il avait demandé à un cabinet de conseil un rapport sur les solutions à envisager pour améliorer la situation d'Alstom. Étude auquel avait participé Patrick Kron, plutôt à reculons d'ailleurs que Larry. Il avait déjà son idée de vendre l'énergie et un acheteur, General Electric. Alors, ce 24 avril 2014, à Bercy, la discussion entre les deux hommes est pour le moins tendue. À partir de maintenant, Arnaud Montebourg doit reprendre les choses en main et Patrick Kron est prié de se faire discret.
Nous allons nouer un dialogue serein, mais ferme, avec tous ceux qui, dans ce dossier, ont des choses à nous dire, bien sûr les actionnaires, bien entendu General Electric, que je recevrai dès que possible aux côtés du Premier ministre dans les jours qui viennent, de manière à ce que le projet nous soit complètement exposé, car il s'agit d'un projet dont le gouvernement n'avait pas été informé.
Si Arnaud Montebourg brandit le flambeau du patriotisme économique, ce n'est pas pour rien. Certes, Alstom est une entreprise privée, mais doit-il rappeler à Patrick Kron et aux Français que l'entreprise est un patrimoine national, qu'elle vit en grande partie des commandes publiques, et qu'il y a 10 ans, en 2004, c'est bien grâce à l'État et à des fonds publics qu'Alstom a pu se sortir d'une situation particulièrement délicate. Ce précédent de 2004, tous au gouvernement et à l'Élysée l'ont à l'esprit. À l'époque, c'est Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'économie, qui s'était occupé du sauvetage et s'était présenté comme le sauveur. Pour Arnaud Montebourg, comme pour Manuel Valls ou François Hollande, ce gouvernement ne peut en aucun cas être celui qui abandonne aujourd'hui Alstom aux Américains. Le symbole politique serait dévastateur. Alors à tous les étages du pouvoir, c'est le branle-bas de combat. Nicolas Dufourcq, le directeur de la Banque publique d'investissement, David Zema à la tête de l'Agence des participations de l'État, Emmanuel Macron, le secrétaire général adjoint de François Hollande à l'Élysée, et l'équipe d'Alain Montebourg se mettent au travail. Première décision, on avertit la haute autorité des marchés financiers pour bloquer le processus de vente. Ensuite, chez tous, une évidence s'impose. Il faut effectivement vendre la partie énergie d'Alstom. Pour l'État, la seule manière de reprendre la main, c'est de trouver un autre repreneur, un autre plan que celui de General Electric. On se tourne alors naturellement vers Siemens et son PDG, Joe Kaeser, le géant allemand de l'énergie et des transports. Entre Siemens et Alstom, c'est en effet depuis toujours un peu « je t'aime, moi non plus », on se parle sans s'écouter, on s'observe sans se séduire. Mais là, pour l'entreprise allemande, l'enjeu est de taille. Ce rachat par General Electric représente une menace directe de concurrence pour Siemens. Ces derniers s'empressent alors de rédiger une lettre d'intention pour formuler une offre. Ainsi, le 28 avril, soit 5 jours à peine après l'annonce surprise de l'agence Bloomberg, Siemens s'invite dans la partie et une deuxième offre vient contrebalancer la proposition des Américains.
Alstom va se donner 2 jours de plus pour étudier les deux offres. D'un côté, l'américain General Electric qui veut racheter sa branche énergie, ses turbines, ses réseaux électriques, ses éoliennes, 70% de son activité contre 10 milliards d'euros. C'est l'offre qui devait être entérinée ce week-end. De l'autre, il y a l'offre de Siemens, offre de dernière minute. Siemens propose d'échanger en partie ses trains à grande vitesse et ses locomotives contre la branche énergie d'Alstom. Une solution alternative qui ne plaît ni au PDG d'Alstom, Patrick Kron, ni au syndicat qui juge l'offre allemande très risquée pour l'emploi. Siemens est un concurrent direct d'Alstom. General Electric est, dit-on, plus complémentaire, mais politiquement, l'avantage de Siemens, c'est qu'il s'agit d'une offre européenne. Pour Arnaud Montebourg, ça permettrait de créer 2 champions européens dans le rail et dans l'énergie, Siemens s'engageant à ne pas licencier pendant 3 ans. Une façon aussi d'obliger l'Américain à revoir son offre à la hausse sur l'emploi et sur les centres de décision en France.
La contre-attaque de l'État est donc lancée. Pour bien montrer qu'il reprend les choses en main, François Hollande reçoit Jeff Immelt à l'Élysée ce même 28 avril et dans la foulée, il reçoit Joe Kaeser, le PDG de Siemens. Après avoir proposé un nouveau scénario, il faut en écrire les grandes lignes. Alors Arnaud Montebourg s'en va expliquer à quel point l'option de Siemens est la meilleure. La réception élyséenne, la contre-proposition de Siemens, les déclarations d'Arnaud Montebourg, tout est fait pour montrer que l'État intervient et défend les intérêts de la France. En face, Patrick Cron a suivi les conseils d'Arnaud Montebourg, il se fait plus distant. Jeff Immelt, oui, rassure, montre qu'il entend les inquiétudes de l'État, qu'il va retravailler son offre. Il sait surtout qu'il a tout à perdre à se lancer dans une bataille politique. Pour l'instant, il reste maître du jeu, il a un temps d'avance sur la proposition improvisée de Siemens. Il faut donc prendre son mal en patience. Rodé aux affaires, le grand patron américain connaît l'exercice. Pendant ce temps, entre Arnaud Montebourg, Emmanuel Macron et François Hollande, les discussions continuent, on s'interroge. Pourquoi Patrick Cron a-t-il autant joué la carte de la discrétion ? Au cabinet d'Arnaud Montebourg, on émet une hypothèse. Alstom serait menacé depuis plusieurs mois par une enquête du département de la justice américaine pour des faits de corruption sur des contrats en Indonésie. Une amende record de plusieurs centaines de millions de dollars menacerait l'entreprise. Et c'est un point fondamental. Et c'est peut-être la raison qui a poussé Patrick Cron à se tourner vers General Electric, l'américain. Un temps, Arnaud Montebourg croit cette version et va même jusqu'à demander aux services de renseignement français s'ils ont la possibilité d'enquêter. La réponse ne tarde pas. Ils n'ont ni les moyens, ni les compétences pour cette mission. Alors que l'inquiétude des salariés s'intensifie et que le discours de l'opposition se durcisse, devant l'Assemblée nationale, le ministre hausse le ton.
Monsieur Patrick Cron, alors que je l'ai interrogé dûment, solennellement et sérieusement, m'a toujours dit qu'il n'avait aucun projet d'alliance. Est-ce que le ministre de l'économie doit aller installer un détecteur de mensonges dans son bureau pour les présidents du CAC 40 qui n'ont pas le civisme élémentaire d'avertir leur gouvernement ?
Une autre piste est aussi envisagée, car un troisième homme restait pour le moment loin des débats a un rôle à jouer dans notre histoire. Il s'agit de Martin Bouygues, dont le groupe du même nom détient depuis 2006 20% des actions d'Alstom qu'il a rachetées à l'État. Et lui aussi est plutôt vendeur. Pour l'instant, son aventure dans le nucléaire s'est soldée par un échec. Alors, aurait-il manœuvré avec Patrick Cron pour mettre en place cette vente et se séparer de ses actions ? Quoi qu'il en soit, une semaine après l'annonce de la vente, la bataille est en place. L'État va-t-il réussir à reprendre la main avec une partie si mal engagée ? Comment General Electric et son PDG Jeff Immelt vont-ils convaincre le pouvoir ? Enfin, quel impact aura cette décision sur les salariés d'Alstom et sur l'économie française ? 30 avril 2014, France 2, journal de 20h. Après avoir laissé passer l'onde de choc de l'agence Bloomberg qui a révélé à la surprise générale le projet de vente d'Alstom Energy à General Electric, Jeffrey Immelt et Patrick Cron décident de repasser à l'attaque. Objectif, rassurer l'opinion. Les deux entreprises s'entourent des plus prestigieux cabinets de conseil de la place de Paris et pendant que Patrick Cron se rend sur le plateau de TF1, Jeff Immelt répond aux questions de David Pujadas sur France 2. Le patron américain officialise l'offre de General Electric et l'entreprise de séduction se met en marche.
Monsieur Immelt, Alstom est un fleuron de l'industrie française. Qu'est-ce qui peut garantir à la France que vous n'êtes pas un prédateur ?
Eh bien, écoutez, David, GE est en France depuis très longtemps. Nous avons été un bon partenaire, un bon investisseur pendant 5 ans dans l'aéronautique, dans les soins de santé, dans l'énergie. Nous avons donc un très long bilan. Et ce que je dirais aux Français, c'est que en regardant en arrière, on peut regarder vers l'avant et on voit bien ce qu'on a fait ici en France. On sait combien le secteur de l'énergie est en France. Nous serons un bon investisseur ici dans le pays comme nous l'avons été pendant les décennies.
Des milliers de salariés d'Alstom nous écoutent ce soir. Est-ce que vous donnez une assurance sur l'emploi en France de ces usines Alstom ?
Oui, je me suis entretenu avec le président Hollande en début de semaine. Ce qui est très important pour lui sont les emplois et j'ai pu en effet le rassurer que nous avons l'intention d'accroître le nombre de salariés des usines d'Alstom en France. Il y aura un bon dosage de l'ingénierie et de la fabrication qui est important pour ce pays. Ça sera de la croissance dans les régions et je sais que c'est très important pour le pays. Et j'ai démontré au président notre bilan en France où nous avons effectivement de nombreux salariés en France. Nous sommes très engagés à la France.
Jeff Immelt et Patrick Cron déroulent leur communication. Et quoi de mieux pour y parvenir que d'utiliser un symbole, et non des moindres, Belfort. Dans cette ville, à quelques mètres de l'usine historique d'Alstom, se trouve sa voisine, une usine General Electric. Oui, leurs salariés partagent la même cantine. C'est le symbole par l'assiette, avant que les couteaux ne soient tirés. Alors, les médias vont sonder la vie des employés, et ceux-ci sont partagés. D'un côté, ils craignent un choc des cultures, écho des différences qui existeraient entre leurs voisins et eux. D'autres expliquent que la proximité et la présence de l'Américain, si près au contraire, est rassurante. Et puis l'offre américaine, contrairement à celle de Siemens, paraît plus crédible. Il y aura moins de doublons, donc moins de menaces sur l'emploi. Au fur et à mesure, l'idée que la proposition américaine est la meilleure s'impose. Même au sein du gouvernement, quelques voix s'élèvent. Ségolène Royal, ministre de l'Environnement et de l'Énergie, va même jusqu'à déclarer dans une interview pour Paris Match « General Electric a le meilleur projet industriel, pourquoi ne pas le dire ?» Premier couac dans la cohésion gouvernementale demandée avec insistance par le Premier ministre Manuel Valls. Révélateur également d'une situation bien mal embarquée, l'exigence économique ne saurait supplanter l'illusion politique. Il faut absolument donner à Hardemont de Bourdet gage à son action. Et alors que le conseil d'administration d'Alstom vient de donner son accord aux négociations pour l'offre de General Electric, le ministre de l'économie sort un dernier tour de sa poche.
Le ministre de l'économie déploie donc les grands moyens. Un décret publié aujourd'hui, détaillé dans Le Monde par Arnaud Montebourg. Il permettra à l'État d'avoir l'œil et la main sur les investissements étrangers en France. Plus seulement dans les domaines de la défense et de la sécurité, ça existait déjà, mais aussi dans ceux des transports, de l'eau, de la santé, des télécoms et de l'énergie. Bonjour Bruce de Galzin.
Bonjour.
Entre les lignes, évidemment, le dossier Alstom.
Ah oui, le décret était en préparation dans le plus grand secret, la discrétion, nous dit-on à Bercy. Et clairement, il pèsera sur la vente du fleuron Alstom. C'est Arnaud Montebourg qui est à la manœuvre, même si le décret est aussi signé par Manuel Valls. Désormais, le ministre de l'économie aura son droit de veto. C'est un réarmement fondamental de la puissance publique, dit Arnaud Montebourg. Et comme Alstom est un maillon essentiel de notre indépendance énergétique, l'État rééquilibre le rapport de force entre l'intérêt des entreprises multinationales et son propre intérêt. Enfin, Hélène, c'est aussi, pour le pouvoir actuel, une manière de donner un signal politique et de prendre le contre-pied de Lionel Jospin, qui disait en 2000 « L'État ne peut pas tout ».
En tout cas, ce décret permet à Arnaud Montebourg de gagner du temps et de défendre son interventionnisme économique. À la mi-mai, alors que les négociations sont engagées, l'objectif d'Arnaud Montebourg est simple. Défendre le sérieux de l'offre Siemens pour pouvoir faire pression sur General Electric et obtenir ainsi des engagements sérieux de l'Américain. Le problème reste que du côté allemand, l'enthousiasme n'est pas au rendez-vous. En marge d'un déplacement à Berlin, François Hollande et Erno Mundbourg rencontrent respectivement Angela Merkel et Sigmar Gabriel, le ministre de l'économie. La réponse tient en quelques mots. Nous ne nous impliquerons pas. Traduction, l'État allemand n'encouragera pas son entreprise à acheter. Voilà, comme ça c'est clair. De son côté, Siemens ne se sent pas en mesure d'y aller tout seul. Il n'a aucun intérêt à racheter l'intégralité du secteur énergie. Il faut donc trouver un autre partenaire. Et c'est là que surgit Mitsubishi, le géant japonais. Voilà l'idée de ce nouvel assemblage. Siemens s'emparerait des turbines à gaz, Mitsubishi du reste, et surtout les deux entreprises acceptent que l'État entre en participation. La formule paraît plus complexe, mais pour Erno Mundbourg et le gouvernement, elle a l'avantage de garder la main. Finalement, le 16 juin, l'offre conjointe de Siemens et Mitsubishi est déposée.
Contre le démantèlement, les deux patrons se posent en garant d'Alstom. Leur projet permettrait de préserver la marque Alstom, son identité et son pouvoir de décision. Les deux sociétés se partageraient ces activités. Siemens prendrait les turbines à gaz, Mitsubishi des participations dans les turbines à vapeur qui équipent nos centrales nucléaires, mais aussi l'hydroélectrique. Cette alliance, il s'y engage, doit permettre de créer des emplois. Joe Kaeser, le patron de Siemens, s'aligne sur la proposition concurrente de General Electric.
Ce que nous voulons, c'est créer un millier d'emplois ici, en France. Siemens a aussi rencontré ce matin les syndicats de ce pays, ainsi que le président de la République, et nous allons ajouter 1000 contrats d'apprentis supplémentaires en France.
La proposition germano-japonaise provoque la colère, quoique dissimulée, de Patrick Cron et du conseil d'administration d'Alstom. Pour eux, et depuis le début, le choix est fait. Alors pourquoi étudier cette nouvelle offre? Le jeudi 19 juin, une réunion a lieu à l'Élysée. Erno Mundbourg vient présenter les deux offres à Emmanuel Macron et François Hollande. Il affirme son choix pour la solution Siemens-Mitsubishi. En face, on est plus sceptique. On sait qu'en aucun cas, on ne réussira à imposer un repreneur à un conseil d'administration qui n'en veut pas. Bref. Les deux hommes, unis au début de la crise, se déchirent à l'heure des décisions. À l'issue de la réunion, le choix du pouvoir est donc fait. Ce sera General Electric. Reste à faire en sorte qu'Erno Mundbourg ne sorte pas totalement défait, comme dans l'affaire Florange, 2 ans avant. La solution porte donc un nom, l'État, qui doit entrer au capital d'Alstom. Cette fois, on donne le sentiment de la victoire au ministre de l'économie. L'État sera présent par un système de co-entreprise et par le rachat des actions de Bouygues. Le vendredi 20 juin, Erno Mundbourg acte la victoire de General Electric au cours d'une conférence de presse. Dans la foulée, François Hollande prend la parole à l'Élysée pour se féliciter de cette sortie de crise.
Je considère que ce qui a été obtenu est un progrès pour la France et vient conclure une négociation qui a été particulièrement bien conduite sous mon autorité par le gouvernement et par les ministres concernés, et notamment Erno Mundbourg.
Derrière les mots, il y a la réalité. En fait, une victoire à la Pyrrhus. Elle n'est donc pas à l'avantage de la France. Le grand gagnant de la partie, c'est bien General Electric, qui domine chacune des co-entreprises et qui hérite des marchés juteux, comme ceux de l'entretien et de la rénovation du parc nucléaire français. Et puis, il reste un dernier point pour finaliser la vente. L'achat par la France des actions du groupe Bouygues. De nouveau, il faut négocier sur le prix de ces titres. Le patron français veut les vendre au prix fort, 35 euros, alors que le marché les fixe actuellement à 24. Les discussions durent, l'échéance de l'offre de General Electric arrive bientôt à terme. Les équipes du ministre de l'économie se démènent de nouveau. Et finalement, fin juin, un accord est trouvé. Erno Mundbourg vient rassurer les Français et célébrer sa victoire sur le plateau de France 2.
Bonsoir Erno Mundbourg, merci Bonsoir. D'être avec nous ce soir. Alors est-ce que l'accord est conclu? Est-ce que vous êtes mis d'accord avec Bouygues?
Nous avons un accord qui a été conclu cet après-midi, qui permet à l'État de devenir le principal actionnaire d'Alstom.
À hauteur de 20%.
À hauteur de 20%.
Comme prévu.
De manière à assurer la pérennité de l'alliance entre General Electric et Alstom. Finalement, nous avons gagné la bataille industrielle de l'alliance, plutôt que le rachat, dévoration, absorption que craignaient à la fois nous-mêmes, le gouvernement, beaucoup de Français, mais aussi les syndicats de salariés.
On peut avoir une précision sur le montant de cet accord? À quel taux l'action a été négociée avec Bouygues?
Nous avons une option d'achat que Bouygues nous a consenti, qui nous permet d'acheter lorsque le prix sera le plus bas possible.
Une conclusion juste, Manuel Valls a été un meilleur allié que Jean-Marc Ayrault dans ce dossier, comme il l'avait été pour le dossier Florange.
Oui. Il a été un excellent allié.
Un excellent allié.
Je ne fais pas de comparaison.
Pas de comparaison. Ce soir, on avait un ministre en face de nous qui est très loin de démissionner. Ça a été une rumeur, une question. On a bien Arnaud Montebourg au sein du gouvernement. Il est heureux au sein du gouvernement.
Comme vous le voyez, mais il m'est très difficile de commenter des rumeurs.
Ça n'était qu'une rumeur.
Le bonheur de dire qu'un temps, c'est bien connu. Et pour Arnaud Montebourg, il s'arrêtera à la fin du mois d'août. Deux mois après cette interview, il quitte ses fonctions. Dans l'intervalle, après 56 jours de négociations, la vente est enfin actée. Pour la fêter, Jeff Immelt et Patrick Kron se rendent à Belfort, là où se trouvent leurs deux usines. Ils sont au sourire. Ils savent qu'ils sont les grands vainqueurs de cette bataille. Ainsi, le 19 décembre 2014, la vente d'Alstom à General Electric est-elle officialisée par le conseil d'administration de l'entreprise française? Quelques mois plus tard, on apprend que Patrick Kron quittera bientôt ses fonctions et surtout qu'il gagnera une prime de 4 millions d'euros pour cette vente, prime qui évidemment pose question.
Patrick Kron, vous avez fait part de votre volonté de partir une fois que le deal serait scellé avec General Electric. Vous allez partir avec 4 millions d'euros en actions, ce qui suscite des critiques en fait de la part de la CGT. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse contester ce départ, ce bonus?
Alors, attendez, il y a plusieurs sujets. Le premier sujet, c'est que je n'ai pas souhaité partir.
À l'Assemblée Générale, vous avez dit « je suis vieux », entre guillemets.
Ouais, si vous voulez, je suis vieux.
Je suis là depuis longtemps.
Je suis plus vieux qu'en 2003, lorsque je suis arrivé, mais ça arrive à des tas de gens, si vous me permettez. Donc, ce que j'ai dit simplement, c'est que l'opération avec General Electric recentre Alstom sur son activité de transport. Il se trouve qu'il y a au sein d'Alstom Transport des équipes parfaitement compétentes capables de diriger cette activité de transport et de diriger demain le groupe recentré sur le transport. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse dans une organisation?
Donc vous rendez service en partant et on vous donne 4 millions d'euros en échange.
Ah non, je ne rends pas service en partant. En ce qui concerne la rémunération, et sur lequel je suis un peu embarrassé pour parler, parce que j'aime pas trop parler des sujets de ce type concernant, ce n'est pas une indemnité de départ, c'est une prime, effectivement conditionnelle, que le Conseil a considéré pouvoir me donner dans l'hypothèse où l'opération, la transaction avec General Electric, irait à son terme. Moi, j'estime ne la mériter en effet.
Au-delà de cette prime, en décembre 2014, c'est toute une série d'autres questions qui surgissent, au premier rang desquelles l'enquête américaine pour faits de corruption et l'amende historique qui pèse sur Alstom. Quelle part a joué cette menace dans le choix des Américains? Comment expliquer que la France ait ainsi cédé un secteur comme le nucléaire aux Américains? Et quand on voit aujourd'hui la situation d'Alstom Transport, qui devait être renforcée, on s'interroge de nouveau sur les errements de la politique industrielle française. N'y avait-il vraiment pas d'autre solution? Pourquoi ce renoncement? Après le feu médiatique du printemps 2014, ces questions, aujourd'hui, restent entières.
C'est comme si c'était hier, comme si l'endroit faisait l'envers, comme si les images s'arrêtaient, et que les belles heures. C'est comme si c'était demain, comme si le soir venait le matin, comme si la grande roue tournait et que l'horloge s'enrayait. C'est comme si c'était le moment, comme si l'après pointait l'avant. Comme si qui sera été, et que la mécanique s'essoufflait. Le temps passe, on est vite, ne passons pas trop vite. Le temps passe, on est vite, ne passons pas trop vite. C'est comme si c'était fini, comme si la mémoire servait l'oubli, comme si nos rêves souvenaient pas, et que le réveil ne sonnait pas. comme si c'était toujours, comme si nos nuits étaient nos jours, comme si le soleil rôdait toi et que les étoiles ne brillaient pas. Le temps passe, on l'évite, ne passons pas trop vite. Le temps passe, on l'évite, ne passons pas trop vite.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le dossier Alstom avec notre invité Jean-Michel Quatrepoint. Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes journaliste et que vous avez enquêté sur cette histoire que vous connaissez donc parfaitement, puisque vous en avez fait le récit dans le livre Alstom, Scandale d'État, chez Fayard en 2015. Dans toute histoire, dans celle-là comme dans d'autres, il y a toujours un point de basculement. Un moment important. Selon vous, quel est le point de basculement, le moment important de cette histoire?
Pour moi, le point de basculement, c'est l'affaire de corruption en Indonésie.
Ouais.
C'est ça qui est le facteur déclenchant. Quoi qu'en dise Patrick Kron. Mais Patrick Kron est tenu par l'accord qu'il a passé avec le département de la justice des États-Unis. Ce sont des accords, vous savez, très contraignants. Et vous devez peser chaque mot ensuite, sinon vous pouvez être même poursuivi à titre personnel, pénalement. Donc, en 2011, le département de la justice des États-Unis prévient Alstom qu'ils sont en train d'enquêter sur un contrat en Indonésie. Et que ce contrat, selon eux, Alstom a versé une commission de 1 800 000 dollars à deux personnes, un politique et un cadre de l'entreprise énergétique indonésienne. Et que c'est donc contraire aux règles bien connues et notamment à ce qu'on appelle le Foreign Corrupt Practice Act, le FCPA américain, qui étend ces investigations finalement dans le monde entier pour toute entreprise, même si ça ne concerne pas les États-Unis. Mais si une entreprise a utilisé le dollar pour faire un acte de corruption, le DOJ se saisit de l'affaire. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Et effectivement, Alstom a fait bien corrompu pour 1 800 000 dollars, pour un contrat de 110 millions de dollars en 2003. Il y avait d'autres affaires aussi. Comme Alstom ne prend pas l'affaire au sérieux, donc le DOJ dit, si c'est comme ça, eh bien nous, on va étendre nos investigations à d'autres pays. Évidemment, l'Arabie Saoudite, etc. Et à ce moment-là, effectivement, plusieurs affaires ressortent. Parce qu'il faut savoir que dans ce genre de grands contrats, de grands marchés, la corruption était quand même monnaie courante dans les années 90 et même encore au début des années 2000. Donc, effectivement, Alstom, comme d'autres, a des affaires. Et là, en 2012, la pression monte. Et Alstom avait un partenaire japonais sur ce contrat indonésien. Et le partenaire japonais, lui, se met à table, comme on dit, et accepte de passer un settlement avec les Américains, et il ne paye que 88 millions de dollars d'amende. Évidemment, ça fait mal dans le paysage. Et à ce moment-là, en 2012, à la fin 2012, il y a un cadre d'Alstom, États-Unis, qui est pris par le FBI, parce qu'il faut voir que les Américains, quand ils déclenchent de telles enquêtes, c'est comme dans les feuilletons. Vous avez 40 personnes qui enquêtent dans le monde entier avec les ambassades américaines qui sont à leur service, les services de renseignement américains qui sont à leur service.
Ça rigole pas, quoi.
Ah non, ça rigole pas, c'est à l'américaine. Et donc, ils prennent ce cadre, et le cadre, évidemment, il se met à table. Il donne des tas de mails.
Ah oui.
Mails que les Américains avaient aussi obtenus, on se demande comment, peut-être la NSA, etc. Donc, ils ont un vrai dossier.
Et, pour un vrai polar.
Oui, un vrai polar, exactement. Et en avril 2013, ils font monter la pression. Et là, ils arrêtent un des cadres dirigeants d'Alstom, qui avait été le responsable d'Alstom États-Unis en 2003, et qui ensuite, depuis, avait gravi des échelons et était maintenant responsable pour la Chine, pour de très gros marchés en Chine. Etc. Et là, il fait un passage par Kennedy Airport, et hop, à la sortie de l'avion, on le chope. Vous voyez, comme Dominique Strauss-Kahn, lui, c'était à la montée de l'avion, là, c'est à la sortie de l'avion, et ils le mettent instantanément dans une cellule de haute sécurité avec les droits communs, etc. Et là, la pression monte sur lui. Les enquêteurs du DOJ et du FBI veulent effectivement que Pierucci, en l'occurrence, balance Patrick Kron et les autres. Ce qu'il ne fera pas. Mais au bout d'un certain temps, si vous voulez, il finit par plaider coupable, parce que ses avocats lui conseillent de plaider coupable. Il prend sur lui, il ne met pas en cause Patrick Kron. Mais du coup, Alstom le lâche. Ouais. N'est pas très...
C'est pas très élégant.
Alors, on peut comprendre pour des raisons... Et à partir de ce moment-là, ils se rendent compte, chez Alstom, qu'effectivement, l'affaire est très sérieuse.
Donc, c'est là qu'ils prennent la décision.
Oui.
On jette le bébé avec l'eau du bain.
Voilà. Bon, hein, il y avait d'autres problèmes, bien sûr. Bon,
mais ça, on s'en débarrasse en vendant.
Et c'est... Mais oui, mais c'est bien sûr, c'est la solution qui résout tout. Hein. Et effectivement, General Electric attendait son heure. Parce que General Electric avait été en compétition avec Alstom pour reprendre une société, à l'époque qui s'appelait T&D, c'était le grid, les réseaux de distribution électrique intelligents. Areva a été obligé de mettre en vente sa filiale T&D, et il y avait deux offres concurrentes, une entre Alstom Schneider et l'autre, c'était qui ? General Electric avec un fonds d'investissement qui s'appelait CVC Capital. Alstom Schneider l'emporte. General Electric n'est pas contente. Parce qu'ils voulaient mettre la main sur T&D et le grid. Bon, donc, ils rongent leurs freins, et à ce moment-là, General Electric demande à Clara Guémard, qu'ils ont embauché, grâce pour son carnet d'adresse, soyons clairs, de suivre le dossier de près, ce qu'elle fera. Et quand, en 2013, effectivement, arrive cette affaire de corruption, et que Alstom est enserré, en quelque sorte, c'est là où Patrick Cron demande à Grégoire Pouguillaume. Alors, Grégoire Pouguillaume, il était chez Alstom. Ensuite, il est parti chez CVC Capital.
Ouais.
Ou chez CVC Capital.
Ça devient compliqué, là.
Ah oui, non, mais. Mais oui, non, mais c'est.
C'est bien.
Non, mais en 2003, Grégoire Pouguillaume est chez Alstom. Ensuite, il part, au bout de quelques années, chez CVC Capital, le fonds d'investissement américain, qui participe avec General Electric à l'offre pour reprendre T&D. Mm. Et puis, l'offre, ils échouent face à Alstom. Et donc, Patrick Cron le récupère chez Alstom, et là, à l'automne de 2013, ben, il lui demande d'aller prendre langue avec General Electric, il les connaît bien et pour cause, hein, pour voir ce qui pourrait être fait avec General Electric. General Electric qui attendait son heure.
Et l'affaire se monte comme ça. Alors,
et voilà.
On va écouter une archiviste intéressante, il s'agit d'Emmanuel Macron, ministre de l'économie, donc on devient ministre de l'économie, devant la commission aux affaires économiques. Ben, il reconnaît qu'il s'est posé pas mal de questions effectivement sur cette affaire-là.
Pour ce qui est de l'enquête de la justice américaine, je me suis moi-même posé la question, parce que j'étais à titre personnel moi-même persuadé que c'était le cas. Je n'ai aucune preuve. Hein. Nous avons demandé, nous avons mené diligence pour essayer de mettre en évidence un lien de cause à effet. Nous n'avons pas réussi à l'établir. Après, nous avons chacun notre conviction intime. Je ne dirais pas que ma conviction intime ne rejoint pas la vôtre sur certaines de vos interrogations, mais nous n'avons aucun moyen de l'établir.
Bon, la voix du ministre de l'économie, c'est la voix de l'État, et ça nous amène au rôle de l'État dans cette affaire. On a du mal à savoir dans quelle mesure l'État a été plus ou moins aux commandes. On a du mal à savoir exactement quel était le sentiment de François Hollande vis-à-vis des contre-propositions par rapport à General Electric. Quelle est la réponse à ces deux questions?
Non, mais je pense que dès le départ, François Hollande, c'est un politique, d'abord. Il raisonne en termes politiques. Donc, il a vu le danger politique pour son gouvernement d'apparaître effectivement comme le fossoyeur d'Alstom, alors que Nicolas Sarkozy avait été le sauveur d'Alstom.
Bien sûr.
Donc, à partir de là, il s'est dit, il faut habiller le bébé. Mais en même temps, dès le départ, il pense que General Electric est incontournable. Pourquoi ils sont incontournables ? D'abord, à cause de cette affaire du DOJ.
Bien sûr.
C'est clair. Et ensuite, parce que, en plus, Siemens est une des bêtes noires aussi du DOJ. Siemens a été condamné par le département de la justice des États-Unis à deux amendes de 400 millions de dollars chacune. Donc, c'est un bad boy, Siemens, pour les Américains. Donc, si on traite avec Siemens, c'est un casus belli vis-à-vis des Américains. Et à ce moment-là, l'amende va monter en flèche. Bon. Donc, pour cette raison, et la deuxième raison, c'est que General Electric, effectivement, est présent en France depuis très longtemps.
À Sochaux, notamment. Il y a une usine.
Alors, l'usine de Belfort, d'ailleurs, c'est une...
Belfort, pardon.
Non, mais ils ont beaucoup d'usines. Bon, mais à Belfort, c'est une usine qu'ils ont reprise à fin des années 90 à Alstom.
Ouais.
Hein, c'est une histoire. Alors. Mais ils ont surtout le 50-50 avec Safran pour produire les moteurs CFM56 qui équipent Airbus et aussi en partie Boeing.
Oui.
Hein, et le CFM56, c'est effectivement la filiale 50-50 entre Safran et General Electric qui a été montée dans les années 70, est un bel exemple de co-entreprise qui, elle, a fonctionné. parce que chacun a respecté l'autre. Mais c'est une des rares entreprises qui a fonctionné. Ensuite, c'est vrai qu'avec General Electric, on a d'autres liens. On a vendu dans les années 80 le médical, toute notre ingénierie médicale, notre industrie médicale, on les a vendus à General Electric, et pas à Siemens. Si vous voulez. Donc, il y a tout à l'heure...
Il y a une histoire.
En fait, vous savez, il n'y a pas de politique industrielle française, parce qu'il n'y a pas de politique industrielle européenne non plus. Il n'y a jamais eu de politique industrielle européenne.
C'est-à-dire que chacun fait dans son coin comme voilà. Il peut, comme il veut.
Il y a eu Airbus, si vous voulez. Mais Airbus, c'était des projets gouvernementaux lancés par la France, en fait, comme Ariane Espace. Et aujourd'hui, vous demandez à d'anciens dirigeants d'Airbus, ils vous diraient, jamais Airbus ne se ferait. Ouais. Parce que la Commission européenne ne laisserait pas faire, au nom de la concurrence, etc. Et c'était parce que le gouvernement français était derrière, et parce que les Allemands voulaient revenir dans l'aéronautique, et qu'ils se sont mis derrière les Français. Hein, ils ont avancé masqués.
Donc ça veut dire, vous êtes en train de me dire quand même que les politiques industrielles européennes, bon, elles n'existent pas, ou non. Pas encore, en tout cas, voilà, on ne pourra pas refaire Airbus, que l'indépendance de la politique industrielle des États, elle n'existe pas non plus dans cette mondialisation, et on le voit bien là. Est-ce que cette affaire-là nous dit cela aussi?
Ah ben elle nous dit la puissance des multinationales. Ouais. General Electric, Jeffrey Immelt, c'était le chef des conseillers économiques de Barack Obama. Hein. Et il est parmi ceux qui ont fait plier Barack Obama. Parce qu'il faut reprendre l'histoire aussi des États-Unis. En 2009, hein, Barack Obama est arrivé avec de bonnes idées. Hein, et il a plié face à l'American Chamber of Commerce. Il a plié face au lobby des multinationales. Hein. Alors ensuite, il a pu faire son Obamacare. C'est « je te laisse faire l'Obamacare hein, » et en contrepartie, tu ne viens pas nous demander de rapatrier les capitaux, de payer plus d'impôts aux États-Unis et de rapatrier l'emploi aux États-Unis.
Hein. Ça veut dire que quand il y a une négociation, par exemple, à l'Élysée, une réunion, une rencontre entre le PDG de General Electric et François Hollande, il y en a un qui arrive de toute façon plus fort que l'autre. Ah, ça veut dire ça.
C'est très clairement, oui.
Allez-y, pardon.
Ensuite, tout ce qu'il faut, c'est habiller.
C'est habillé.
Pour l'opinion publique. On fait de la communication.
Alors, d'où cette contre-proposition, ce montage, Siemens Mitsubishi, c'est Arnaud Montebourg qui est chargé de cette mission-là, une mission sacrée, celle de l'État, qui n'a pas complètement disparu, et tout ça, quoi. C'est de l'illusion.
C'est de l'enfumage. Il y a double enfumage. Premier enfumage, c'est de nous expliquer qu'on fait un accord entre égaux.
Oui. Hein. Et, risque pas le cas.
Et en plus, il y a un mensonge, qui est un mensonge de la part de General Electric, de la part d'Alstom, de la part de l'État. C'est-à-dire que quand ils ont présenté à la presse et aux parlementaires et à l'opinion publique l'accord signé le 21 juin, on a des graphiques qui vous montrent que, effectivement, les turbines à gaz passent chez General Electric, c'est-à-dire ce qu'ils voulaient de toute façon depuis le départ, hein, mais que pour le reste, on a des co-entreprises à 50-50. C'est faux. Et moi, j'ai découvert ça. Au début, j'y ai même cru, effectivement. Quand je les ai vus,
bon, C'est pas la réalité.
Alors ça,
la proportion, c'est pas celle-là.
On s'en est aperçu, effectivement, à fin décembre. Bon. Mais la proportion, c'est 80-20 dans le nucléaire, et puis c'est 50 plus une.
Oui.
Ah oui, ce qui change tout. Et quand vous regardez dans le détail, le président, évidemment, de ces co-entreprises est nommé par General Electric, que la direction financière et toute la trésorerie est faite par General Electric, et qu'on laisse aux Français la direction technique. Hein, et que dans 4 ans, il est prévu, effectivement, que General Electric rachète à une option de rachat, à un prix déterminé, à Alstom, des 49%. Bon, donc, on a habillé. Si vous voulez. Mais c'est une. On a un abandon race campagne.
De toute façon, à la fois Patrick Cron et le PDG de General Electric, mais surtout Patrick Cron en tant que Français, et en faisant son coup avant de prévenir le gouvernement, il met bien le gouvernement devant un fait établi. C'est la stratégie du fait établi.
Tout à fait.
Mais j'ai envie de dire, de quoi se plaint-on? Je ne sais pas pourquoi je vous pose la question. Parce que les gouvernements successifs, depuis un certain temps, se sont convertis à cette idée du retrait de l'État. On n'est pas jusqu'à « le problème, c'est l'État », je ne dis pas ça. Pas totalement réganien. Enfin, on est quand même un petit peu là-dedans. Alors, de quoi se plaint-on?
On a abandonné. Et puis, surtout, si vous voulez, c'est dans l'état d'esprit. Par exemple, l'État n'a plus les forces, même intellectuelles, de réflexion suffisantes.
Comment ça?
Parce que la haute fonction publique, moi j'ai connu la haute fonction publique dans les années 70 et 80. Vous aviez des hauts fonctionnaires qui étaient souvent arrogants.
Vous en faisiez partie?
Non. Moi je suis journaliste depuis 1970.
Oui, c'est pour ça que vous avez enquêté, quoi.
Oui, je suivais l'industrie. J'ai écrit en 1977 un livre qui s'appelait French Ordinateur. Ouais. Hein, et c'était le récit comment, effectivement, on a abandonné un projet industriel européen sur l'informatique qui s'appelait Unidata, entre Français, Allemands et néerlandais, mm-hmm. pour nous, Français, faire alliance avec les Américains de Newell.
Bon. Ouais.
Hein, autour de ces deux yeux, Newell Bull. Et donc, à l'époque, j'étais journaliste au Monde, donc j'ai suivi ça de très près. Mais à l'époque, je reconnais que les hauts fonctionnaires étaient parfaitement compétents et que l'État avait à sa disposition des outils d'évaluation. Bon, aujourd'hui, il ne les a plus. D'ailleurs, à telle enseigne que quand l'État est partie prenante, il fait appel à qui ? Il fait appel à des banques d'affaires.
Ouais.
Hein ? Ce qui est quand même un comble. C'est-à-dire que l'État n'a plus en son sein les ressources intellectuelles suffisantes pour mener des enquêtes à fond et avoir un avis. Hein ? Donc, vous faites appel à des banques d'affaires, généralement anglo-saxonnes et américaines. Bon. Donc, la boucle est bouclée. Et en plus, ils pensent tous de la même façon.
Et ça veut dire que pour les prédateurs, pardon de parler comme ça, mais ceux qui peuvent être prédateurs, les multinationales, la France est un pays où on peut, comme ça, venir acheter tranquillement.
Oui, alors, j'ai
je ne suis pas dans la caricature, oui, mais, enfin, tout non, ça, mais ça interpelle quand même.
Non, mais General Electric a une très longue habitude de la pratique de la France. Donc, presque plus que Siemens, si vous voulez. Mm. Donc, ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise, ils savent comment faire. Ils savent ce qu'il faut promettre. Ils promettent 1000 emplois nets. Hein. Quand on regarde le détail des 1000 emplois nets, d'ailleurs, c'est triste parce que dans ces 1000 emplois nets, il y en a plus de 200 où ils disent, bah oui, on va prendre des jeunes à la sortie des très grandes écoles, hein, on va les faire participer à notre programme de Young Leadership à l'intérieur de General Electric ou dans le monde entier. Bon, c'est-à-dire, alors qu'avant, il y en avait que 20. Avec 20 jeunes Français, là, il y en a 200 qui participeront. Oui, c'est-à-dire qu'ils nous piquent nos cerveaux. Hein, et ensuite, ils les mettent, effectivement, dans toutes les filiales de General Electric dans le monde entier. C'est pas mal, c'est bien joué. C'est nous qui avons payé les études de ces jeunes.
Dites-moi, quel tableau. Concernant le jeu joué ou qu'on a fait jouer, je sais pas, à Arnaud Montebourg, et on le met en perspective avec l'affaire de Florange. Dans l'affaire de Florange, Arnaud Montebourg, il a choisi son camp, il se bat, finalement, il se fait savonner la planche sur sa proposition de nationalisation temporaire, hein, le temps de retrouver un repreneur viable. Bon, là, on voit que c'est fait avoir. Bien, il s'en va pas, il reste. Et puis là, il a cette affaire-là. Quel rôle il joue dans cette affaire-là ? Est-ce qu'il est complice de l'habillage, de la communication, comme vous disiez ?
À la fin, oui. Oui. Au début, je crois qu'il est vraiment furieux.
Bon.
Parce que c'est vrai, là aussi, c'est là où l'État, c'est où Arnaud Montebourg, il joue les pompiers sur PSA. Il entend parler, parce qu'il y a quelques rumeurs quand même qui viennent. Vous savez bien qu'Alstom avait des problèmes. Mais les autres ont envoyé des leurs. Bon. Et il n'a pas, si vous voulez, les outils, encore une fois, suffisants pour pouvoir monter une offre concurrente. Dans ce dossier, si vous voulez, je pense qu'il n'était pas possible de faire l'accord avec Siemens parce que Alstom n'en voulait pas, les syndicats d'Alstom n'en voulaient pas, parce que la Commission européenne aurait évidemment bloqué, etc. Donc, c'était pas possible.
C'est pour ça que les Allemands, ils disent, on n'y va pas dans votre truc.
Exactement, les Allemands, ils sont là, ils sont hésitants, etc. Ouais. Bon. Mais, ce que je leur reproche au gouvernement français, c'est que vous recevez une offre, la dernière offre de Siemens Mitsubishi est plus intéressante financièrement et en termes de pouvoir.
Oui.
C'est-à-dire que ça valorise 2 milliards d'euros de plus Alstom, l'ensemble Alstom, et dans la partie vapeur nucléaire et hydraulique, grid, etc., Mitsubishi ne prend que 40% et les Français gardent 60%. Siemens prenant les turbines à gaz intégralement. Vous êtes banquier d'affaires, ce qui était le cas de M. Macron quand même, quand il était chez Rothschild. Vous êtes un banquier d'affaires, vous voyez arriver une offre de ce type.
Oui.
En face, vous avez une offre qui est 2 milliards de moins. Et bon, qui est moins bien présentable. Ben, vous dites, vous retournez vers l'Américain, vous lui dites, vous alignez.
Bien sûr.
Hein, vous alignez.
Classique.
Ils ne l'ont pas fait.
Et donc ça voulait bien dire que, de la part du gouvernement, c'était pour général.
Oui,
c'est point barre.
Bien sûr, et surtout parce que Jeffrey Immelt s'était engagé auprès de son conseil d'administration sur 12,35 milliards d'euros et il ne voulait pas donner un cent de plus. Hein, donc il s'est bloqué là-dessus. Pas question de rallonger la sauce. Au contraire, d'ailleurs, quand on fait les comptes au bout du compte, il a réussi à payer pas cher, croyez-moi. Il a fait une bonne affaire parce qu'il a obtenu au dernier moment un rabais de 300 millions encore. Et là, aujourd'hui, ils sont en contentieux, ce qui est un comble, avec ce qui reste d'Alstom, Alstom Transport, sur le rachat de la partie signalisation, hein, qui devait être acheté autour de 700 millions d'euros, c'est un très bon prix. Eh ben non, Alstom apparemment a trouvé qu'il y avait peut-être des problèmes dans les comptes, ils ont demandé un arbitrage, et General Electric refuse, cet arbitrage. Donc ils sont en contentieux en plus.
C'est un comble effectivement. On va terminer avec la situation aujourd'hui. Alors Alstom, c'est quoi? Donc il reste la branche transport.
Transport.
On construit quoi? Des rames de TGV, des
oui,
bus,
puis,
des métros.
Bon, le métro, le métro, puis les rames de train normaux.
Aussi, oui,
quelques contrats ces derniers temps.
Il en reste.
Oui.
Et donc la branche énergie, c'est quoi? C'est plus rien. C'est
ah ben la branche énergie.
En gros, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est quoi Alstom?
Alstom Transport a 49% de deux co-entreprises. Sur le grid et sur le renouvelable et l'hydraulique, et 20% sur la partie nucléaire, qui vont être vendus à General Electric dans 2 ans et demi maintenant, selon les accords, et puis il restera Alstom Transport.
C'est quoi précisément la partie nucléaire?
Alors, la partie
entretien voilà, rénovation
ce sont les 58 réacteurs nucléaires français, plus quelques-uns à l'étranger, puisque la turbine Arabelle. C'est la turbine qui équipe nos centrales nucléaires, plus quelques-unes à l'étranger. Et donc la maintenance de ces turbines, c'est des revenus récurrents quand même, comme on dit.
Bien sûr.
Et comme il va y avoir le grand carénage, c'est-à-dire la mise en conformité de nos centrales, ça représente un chiffre d'affaires non négligeable.
Merci infiniment Jean-Michel Quatrepoint pour toutes ces précisions si utiles sur un dossier compliqué, mais on voit bien ce qu'il en ressort de notre politique industrielle.
Malheureusement.
Merci infiniment, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Alstom, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons une histoire de faussaire dans le domaine du vin, qui est aussi un objet de spéculation, le vin, vous savez, quel que soit son arôme.